L'original. Radio Campus.
Dutrisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, jeudi 13 mai 2021. J'espère que vous allez bien. On aura la réaction du Parti québécois, pardon, et de Québec solidaire à midi sur la réforme de la loi 101 par le gouvernement Legault. Le Parti libéral a été invité puis a décliné notre invitation. C'est pas nouveau. Des fois ça arrive qu'ils acceptent. Souvent, il refuse. On salue l'équipe de communication Parti libéral qui est à 10 % dans les intentions de vote chez les francophones. Et vous savez quoi? On comprend pourquoi. À 11h, on va parler à la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Morin, sur les délais imposés par Transport Canada à juste déplacer des voies ferrées. Et là, ça va faire 8 ans là, qu'on a connu l'horreur à Lac-Mégantic qui a causé la mort d'au moins 47 personnes. Tout d'abord, je sais pas si vous avez vu l'article dans le Journal de Montréal aujourd'hui, à l'été 2019, il y a deux instructeurs de tir qui ont essayé de faire des tests sur les gilets pare-balles et puis, ça a pas l'air très concluant. On a avec nous Martin Perrault, qui est président du syndicat des agents de protection de la faune. Monsieur Perrault, bonjour.
Bonjour, monsieur
Dutrisac. Est-ce que le ministre de la Forêt, des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, achète les gilets pare-balles chez Dollarama?
Non, je pense pas qu'il va jusque-là, mais je me questionne aussi sur le niveau de connaissance du dossier. Est-ce que toutes les informations sont transmises directement à son bureau ou ils sont arrêtés un peu avant? Ça, j'ai des sérieuses questions là-dessus.
Mais là, vous, à l'été 2019, là, vous avez testé ces gilets pare-balles-là. Sur 17 coups, il y en a 5 qui ont traversé l'armure. Et un an plus tard, vous attendez toujours des nouvelles du ministère. Comment vous expliquez ça?
Souvent, chez nous, c'est tout le temps une question de budget. Il y a des choses, puis justement, ces tests-là, comme vous l'avez dit, ça a été fait par des instructeurs qui ont été mandatés justement par les hauts placés du ministère pour aller tester vraiment. Il y avait certains doutes sur l'efficacité en lien avec nos balles de pratique, les balles frangibles. Puis on dit, regarde, on va en avoir le cœur net, on va aller les tester. Puis finalement, les tests ont été très surprenants, là, pas dans le bon sens, je dirais.
Ouais. Fait que,
on en est là aujourd'hui, puis ça a été rapporté dans un rapport, puis on est encore là aujourd'hui, puis il n'y a pas grand-chose qui a évolué. On a même demandé de faire annuler les qualifications de tir, parce qu'étant donné qu'on est au courant d'une problématique, même s'il n'est rien arrivé depuis tout le temps, on ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose. On est au courant d'une problématique de santé et sécurité, puis il faut agir.
OK, mais ça, c'est important de le dire. Il n'y a aucun agent de la faune, M. Perrault, jusqu'à maintenant, là, qui a eu besoin de se protéger, là, qui a utilisé le gilet pare-balles.
Pour l'instant, non. Je sais qu'il y a eu différents événements au fil des années de notre corps d'emploi. Mais là, présentement, une des problématiques, c'est avec les balles frangibles. Déjà que les gros calibres, notre protection balistique ne protège pas contre les gros calibres. Ça, on était un peu au courant aussi. C'est sûr que c'est les risques du métier en même temps. Quand on va sur le terrain, puis une personne a une 300 magnum, ça prendrait des panneaux balistiques de l'armée, ouais. pratiquement pas impossible à transporter pour tout le monde. Fait que c'est sûr qu'on était conscient de ces risques-là. Mais là, d'avoir un niveau de certification vraiment minimal pour notre travail, étant donné que là, c'est nos propres balles de pratique qui pourraient nous mettre à risque s'il arrive un événement, ben tant qu'à faire une modification, on est aussi bien de la faire là, pour avoir un niveau de certification qui va même jusqu'à protéger certaines armes longues.
Dans quelles circonstances, M. Perrault, moi, je suis pas chasseur, là, je fais pas la chasse. Dans quelles circonstances ces gilets-là ont pu être utiles là, sans nécessairement se faire tirer dessus par les agents de la faune, mais ce n'est que pour les rassurer, mais c'est quoi, avec des braconniers, avec des gens qui veulent pas vous voir sur leur territoire, dans quelles circonstances ça se passe?
Ben, les vestes pare-balles, là, ils peuvent être utilisés pour n'importe quelle intervention. Nous, à la chasse, à chaque fois qu'on vérifie quelqu'un est en possession d'une arme à feu. T'sais, nous autres, si on va voir quelqu'un sur le terrain à la chasse et qu'il n'y a pas d'arme à feu, c'est pas normal pour nous. Là. Fait qu'il y a quelque chose, qui se cache. Fait que, on rencontre des personnes à la chasse qui sont armées constamment. Si on va au niveau de la pêche, à la pêche, tout le monde a des couteaux, certaines choses. Fait que les vestes pare-balles, oui, ils appellent ça des vestes pare-balles, mais c'est fait aussi pour protéger contre des coups de couteau ou quoi que ce soit. Malgré que cette certification-là, là, je suis pas un expert là-dedans, un coup de couteau bien placé là, pourrait peut-être même traverser. Là, fait que,
alors, qu'est-ce
pour
que
nous autres, on demande justement de monter le niveau de certification. Je comprends que le ministère va dire « Ah, elle est certifiée par telle firme des États-Unis, tout ça. » Oui, il y a différents niveaux de certification, par exemple. T'sais, pourquoi qu'on a rendu là en étant en connaissance de cause, puis c'est un enjeu de santé-sécurité. Là, c'est pas un enjeu syndical, patronal, quoi que ce soit. C'est vraiment santé-sécurité. Ben pourquoi ne pas effectuer un changement, débloquer des fonds pour faire le changement, pour avoir des panneaux balistiques qui ont une certification qui est respectable pour le métier qu'on a à faire.
OK, parce que en même temps, M. Perrault, là, moi, je lisais l'autre article là, qui vous concerne aussi. Là, je lisais, puis j'ai vraiment sauté. Là, au cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, on songe à acheter près de 300 fusils semi-automatiques AR-15 pour les installer dans vos véhicules de patrouille et pour les agents de la faune. Je suis allé voir c'est quoi des AR-15, mais c'est des armes de psychopathes pour des tueries de masse. C'est une arme qui est bannie pour les civils au gouvernement Trudeau. Expliquez-moi pourquoi il y a de l'argent pour acheter ce genre d'armes-là, puis je pense que vous n'en avez pas besoin, mais vous n'avez, il n'y a pas d'argent pour des gilets pare-balles.
Ben, je vous dirais que c'est deux dossiers, mais en même temps, au niveau des AR-15, c'est quelque chose, c'est pas nécessairement une arme qu'on demande, mais c'est une arme qui a été testée par différents moniteurs. C'est quelque chose qui remplacerait nos armes de soutien qu'on a présentement, qui est les calibres 12 à slug. Ces armes-là, c'est des armes qui ont énormément de recul. C'est pas toutes les gabarits qui sont faites pour absorber ça. Puis les tests qui ont été faits, qui sont concluants. Oui, ça a l'air, quand on regarde le AR-15, ça peut avoir l'air d'une mitraillette, puis comme vous dites, certaines armes de tuerie. Mais c'est une arme qui serait grandement utile comme arme de soutien pour nous. On s'entend, nous, on va pas commencer à se barricader pour contre des chasseurs quoi que ce soit. Nous, ces armes-là sont utilisées pour abattre des animaux blessés, des animaux malades ou ces choses-là. Là, c'est pas dans le volet plus policier que ces armes-là nous serviraient. Ça évite les blessures au niveau des agents, comme je vous dis, avec les calibres 12, mais c'est pour faire le travail qu'un 9 mm, nos armes de service, sont peut-être pas assez puissants ou assez longue portée pour abattre, comme je vous dis, un animal blessé ou un animal malade là, qui pourrait se retrouver à un endroit non désiré.
Mais c'est comme Rambo à la chasse, M. Perrault, là, c'est hallucinant. Il y a rien entre les deux, là?
Ben moi, comme je vous dis, je suis pas un expert là, par rapport à ces armes-là, mais c'est des armes qui sont, comme je vous dis, qui peuvent être utilisées dans un mauvais escient, là, comme pour les au niveau des criminels. Mais pour nous, il y a justement un dossier qui a été monté en lien avec ça. Puis ça a été l'arme qui serait retenue pour nos armes de soutien, pour remplacer, comme je vous dis, les calibres 12, parce que les calibres 12 avec les balles de slug, là, ça a énormément de recul.
Non, je comprends ça, je le comprends. Mais des semi-automatiques, des armes là, qu'on utilise dans des fusillades qui ont même été bannies aux États-Unis pendant un certain temps. Puis vous, les agents de la fonte, vous avez besoin de ça pour abattre des animaux. Voyons donc, là, vous faites un trip de gun, là, vous faites un trip de Rambo. Ça n'a pas d'allure.
Non, c'est pas une question d'être un trip de gun ou un trip de Rambo. Il faut trouver une arme intermédiaire pour servir de notre arme de soutien. Donc, nous, on a des 9 mm déjà, mais on a besoin d'autres types d'armes. Là, on parle de AR-15. Le comité, puis qu'est-ce qui a été décidé par le ministère, qu'est-ce qui va être décidé éventuellement. Ça, il n'y a pas de position qui a été prise officiellement, mais il y a différents types d'armes qu'il faut qu'ils soient utilisés pour le travail qu'on a à faire. Puis encore là, je sais pas, c'est pas vraiment le travail policier que cette arme-là pourrait servir. Là. C'est complètement une autre chose.
En tout cas,
Il y a volé, comme vous dites aussi, là, on a de l'argent pour ça, mais pour les panneaux balistiques, ça a l'air d'être plus compliqué. Là. Fait que, je comprends aussi le principe qu'il faudrait peut-être prioriser le volet des panneaux balistiques des vestes pare-balles. Ensuite de ça, on pourra voir qu'est-ce qu'on fait avec l'arme de soutien. C'est-tu ça qui va être retenu? C'est-tu un autre type d'arme?
Mais y a-tu un compromis entre le AR-15 et un 12?
Faudrait poser la question au ministère, honnêtement. Qu'est-ce qui a été décidé? Parce qu'il y a plusieurs blessures au niveau des agents avec les 12 à slug. Parce que, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais tiré ou peut-être pas d'idée comment que ça peut frapper un 12 avec une slug. Mais un chasseur, là, sait très bien qu'un 12 avec une slug a beaucoup plus de recul que une grande majorité des carabines là, de chasse, des armes longues. Donc, il y a peut-être un compromis à faire, ça, je sais pas. C'est plus au niveau du ministère puis de ceux-là qui sont mandatés pour trouver une arme intermédiaire. Mais la priorité pour le moment, selon nous, c'est l'histoire des vestes pare-balles. Il faut que ça se règle, puis il faut que faut procurer un panneau balistique qui est sécuritaire.
Mais est-ce que, pour conclure, M. Perrault, est-ce que vous lancez un ultimatum au ministère, au ministre, que vous allez faire quoi? Une fois que ça, c'est une fois que l'entrevue est finie, là, ici, là, puis une fois que le journal demain va être remplacé par un autre article, est-ce qu'on va vous oublier puis on va laisser tomber le dossier?
Ben, j'espère que non, parce que justement, comme vous l'avez vu, là, les tests ont été faits en 2019, on est rendu en 2021.
Ouais.
Fait que là, aujourd'hui, on en parle, puis comme vous dites, demain, ça va être un autre article, mais nous, c'est sûr qu'on lâchera pas le morceau, puis ce qu'on demande, c'est, on est rendu devant la situation, devant le fait accompli, ben là, faut s'asseoir, puis faut que trouver les panneaux balistiques qui sont appropriés à notre travail, mettre un niveau de certification un peu supérieur, oui, parce qu'on est rendu là, présentement.
C'est bon. Président du syndicat des agents de protection de la faune du Québec, Martin Perrault, merci d'avoir pris le temps de nous parler. On va suivre le dossier.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et on a un extrait aussi là du AR-15. Là, c'est Rambo à la chasse. Écoutez ça. Il a pogné le lapin. Il l'a eu. Bravo.